Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter, bienvenue à bord de l'émission Bibliomanie et bonne année à tous en compagnie. Émission aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand avec la complicité de Flo Descailloux, personnage que vous connaissez tous à la technique, qui vous salue bien et qui va nous permettre d'avoir un accompagnement musical, c'est très important. L'accompagnement dans une vie et la lecture aussi, bien sûr la lecture. Aujourd'hui c'est un livre pour moi coup de cœur, un roman coup de cœur de cette rentrée de janvier avec notre invité Julien Lesquiera qui vient de publier aux éditions Ludilettante Mes vies parallèles. Alors les bonnes résolutions, mais vous Julien Lesquiera, vous faites l'inverse. Surtout votre personnage qui s'appelle Charles Dubois, il travaille pas, il n'entend pas travailler. Et puis moins il en fait, plus on en fait autour de lui, c'est ça son problème. L'inaction va déployer une surmultiplication d'activités fébriles, d'ailleurs autour de ce fameux Charles Dubois. C'est un roman qui fait quand même 510 pages, d'après mon bon souvenir. Et c'est ça. Julien, j'allais vous appeler Charles, c'est terrible.
Ça commence bien.
Julien Lesquiera, et vous êtes libraire à la librairie Les Volcans.
À Clermont-Ferrand, voilà. Tout à fait.
Alors, le point de départ de Mes vies parallèles. Mes vies parallèles, comme je connais un peu Boris Vian, j'ai pensé à Boris Vian pour une biographie de Boris Vian qui est très connue. Mes vies parallèles, est-ce que c'est un... Je me suis demandé, est-ce que c'est pas un livre post-Covid? Est-ce que le confinement, est-ce que c'est un livre qui est né de ce temps immobile?
Non. Non. Alors peut-être qu'il va être lu comme ceci, peut-être que vous l'avez lu comme
non,
ceci.
Non, pas du tout. Mais
alors moi, je ne l'ai pas du tout écrit, parce que je l'avais en tête depuis bien longtemps avant le Covid, depuis une dizaine d'années. J'avais en tout cas envie d'écrire sur ce sujet, de m'emparer de ce sujet de l'oisiveté, de l'immobilité, de la paresse depuis très longtemps. Et je dirais qu'au contraire, le moment du confinement et du Covid, c'est un moment où j'avais mis ce projet de côté, quoi, où j'avais plutôt envie d'écrire et de faire des choses, plutôt que de me pencher sur le sujet de l'immobilité.
Oui. Alors, il y a d'abord, c'est un livre qui a le sens de la formule, il y a les premières phrases, mais il y a une phrase de Jules Renard qui est importante parmi... Il y a beaucoup de phrases en exergue de votre livre.
Tout à fait.
N'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien, il se garda d'intervenir. Et je trouve, il se garda d'intervenir, ça dit tout le roman.
Oui. Oui, et en plus, moi, je trouvais cette situation intéressante parce que je voulais insister aussi sur la lâcheté du personnage, quoi. C'est-à-dire qu'on peut écrire sur une forme d'oisiveté heureuse, une forme d'oisiveté qui va vers le bien-être. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'expliquer que quand on a envie de rien faire, quand on ne fait rien, il y a aussi une part de lâcheté, c'est-à-dire qu'on laisse tomber beaucoup les gens autour de soi et on n'intervient pas devant l'injustice, par exemple. Et donc voilà, je trouvais que ça avait une certaine résonance, cette phrase, pour le propos, une part du propos du roman, quoi.
Oui, parce que moi, je ne l'ai pas lu comme un roman post-Covid, mais votre personnage Charles Dubois, ça pourrait être la société. C'est un peu notre société. C'est le prototype de notre société actuelle.
Oui, parce que alors moi, je le vois comme d'abord quelqu'un de très individualiste, de très centré sur lui-même, sur ses émotions, qui analyse beaucoup ses émotions, son ressenti, qui est très à l'écoute de lui-même, et assez peu à l'écoute des autres, quoi. Et même ses proches, quoi. Et quelqu'un aussi qui est très désengagé socialement, politiquement, tout. Alors il a une certaine forme de conscience politique, mais qui est très peu dans le... Et qui subit les choses, c'est-à-dire qu'il voit les injustices, il les subit parfois, mais il n'a pas du tout de révolte, en tout cas concrète, en lui, quoi.
Oui, c'est l'anti-mai 68.
Ah oui, je pense que du coup, oui.
C'est l'anti, c'est pas sous les pavés, là. Enfin, je sais pas, là, c'est...
Oui, c'est quelqu'un qui, clairement, ne demande pas l'impossible, quoi.
Ouais.
Et qui accepte de subir, quoi. Et qui, parfois même, s'en réjouit, quoi.
Oui, c'est pour ça que je l'ai vu vraiment comme un... Parce qu'on pense aussi à l'homme sans qualité, on peut penser aussi à l'homme qui dort, de Pérec, on peut penser, il y a plein de références, hein, vraiment, qui... Et c'est pas un roman sur l'oisiveté heureuse, c'est au contraire sur le renoncement à soi et aux autres.
Oui.
Une forme d'autisme.
Oui, alors après, le terme parfois est compliqué à employer parce que il y a je sais pas si, en tout cas, de renoncer à. C'est le renoncement, oui. Et il renonce à beaucoup de choses. Il se néglige aussi et par oui par peur, par paresse, par et quitte à oui à aller dans des extrêmes. Et voilà, en tout cas, oui, moi je le vois pas, et c'est pas, oui, parce que derrière l'oisiveté heureuse, il y a, en tout cas dans l'idée qu'on en fait, ou dans laquelle on l'exploite parfois en art, c'est qu'il y a aussi une certaine forme de combat anticapitaliste, c'est-à-dire de dire, nous, on se retire, et que lui, il n'est pas nécessairement ce personnage, et ce livre n'est pas forcément ça, quoi. C'est-à-dire qu'il est plus dans une forme d'abandon strictement individuel. Et voilà, il n'y a pas de c'est pas un projet de contre-société qu'il essaye de construire, quoi.
C'est presque un homme sans état d'âme. Pourquoi il en a, mon frère?
Oui, c'est le paradoxe, c'est que il est traversé par des états d'âme, mais que il n'a pas l'énergie nécessaire pour en faire quelque chose, quoi.
Bah, il en fait un livre, enfin, votre narrateur en fait un livre. Et moi, j'ai été, voilà, d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais désiré autre chose que de ne rien faire. Voilà, le ton est dit.
Oui. Ben c'est une phrase qui m'a, comme voilà, comme je le disais, j'avais longtemps eu envie de travailler sur ce sujet, d'écrire là-dessus, et puis c'est en trouvant cette phrase que j'ai trouvé d'une part le ton, cet humour un peu grinçant que j'ai essayé de maintenir ensuite sur toutes les pages, et puis aussi ça a caractérisé le personnage tout de suite, quoi. C'est-à-dire que sa paresse, son refus du travail ou en tout cas de l'effort, il est pas construit en réaction à quelque chose, quoi, en réaction à une situation d'injustice ou une situation d'exploitation. C'est quelque chose de presque inné, quoi, de même avant la naissance, quoi, et qui, voilà, comme si il était, dès la conception, il y avait eu ça qui était venu s'accoler à sa personnalité.
Oui, c'est un invertébré, c'est pas un décérébré, parce que il a quand même conscience, mais enfin, il est mollasson.
C'est un fœtus avachi, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que dès dans le ventre de sa mère, il se tient pas droit, quoi.
Il se tient pas droit.
Non.
Il est jamais là où il faut. Alors, regardez ce qu'il dit. Mes parents s'étaient donc rencontrés autour de cette idée essentielle. Le travail devait précéder tout le reste. Ils s'étaient connus, bourdonnant, chacun de leur côté. Et ils avaient alors construit leur histoire en s'activant sans cesse. Tout ce qui était né pas sué était considéré comme perdu. Donc, il y a plusieurs réflexions aussi dans votre livre, que moi, je trouve très cinématographique, personnellement. C'est la réflexion sur le travail obligatoire, l'obligation, et puis l'intervention. Est-ce qu'il faut être interventionniste dans la vie d'autrui? Est-ce qu'il faut... Et le fait de se laisser balloter par les circonstances.
Oui. Et puis, en plus, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de le confronter à une famille où tout le monde est interventionniste, quoi, pour des raisons différentes.
Ah, ils le sont tous. Mais c'est terrible.
Alors, du coup, il y a le père qui est militaire, ouais. Il y a la mère qui a cette tradition de mérite républicain,
voilà.
Et puis la sœur qui est donc qui a 10 ans d'écart avec lui, qui est la fille aînée, qui elle est rentrée dans ce moule-là et a décidé de ne plus en changer, sans même se poser la question, sans se déconstruire, quoi. Et que du coup, voilà, c'est ce trio-là, en tout cas le duo ensuite, quoi, faisait que lui venait en contrepoint mollasson, quoi. Et que c'était du coup très très intéressant de le mettre dans une famille où c'était une incongruité de voir quelqu'un refuser le travail et l'effort, quoi.
Oui, c'est peut-être l'homme déconstruit de Sandrine Rousseau, sait-on jamais. Ce fameux homme déconstruit qui a fait tout le monde en a parlé, comment il y a des hommes déconstruits, etc. C'est même pas qu'il se construit en se déconstruisant, enfin il est conscient, mais c'est comme un disque dur qui...
Oui, il est dans la passivité, beaucoup, beaucoup dans l'observation.
Oui.
Et ça, tout au long de sa vie, et ce qui va lui permettre aussi ce qui permet au roman de faire exister les personnages autour, quoi. C'est-à-dire que comme lui agit peu, les autres agissent autour de lui, quoi. Parfois pour le faire réagir, parfois parce que sa non-action permet l'action des autres, quoi. Donc ouais, oui, ça c'était intéressant.
Et puis, alors voilà, bon, je vais vous citer beaucoup, parce que, Julien Lesquiera, parce que c'est ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'il y a le sens narratif, ça c'est très important, je trouve que ça manque à beaucoup de romans contemporains, et il y a le sens des personnages. Les lieux, vous les décrivez pas tellement, finalement, les lieux, oui. Un peu moins. Ben, il y a des personnages exceptionnels, vraiment, dont on va parler, des formules. J'étais surveillée comme le lait sur le feu à ceci près, qu'on attendait de moi que je déborde sans cesse de la casserole. Voilà. Et il y a des formules très imagées, et on voit aussi l'écriture en train de... Je dirais presque que votre personnage est écrit par les circonstances, et que votre livre prend comme la sauce. votre écriture s'écrit, se grandit au fur et à mesure.
Oui, comme un flot, en fait. C'est-à-dire que le personnage se laissant porter par la vie, par l'existence, subissant, et que oui, du coup, l'écriture peut ramasser aussi... comme ça, des choses sur le passage.
Ouais. Voilà, alors, la sœur, c'est une sorte de cheftaine insupportable. Enfin, elle devient sympathique quand même. Dès mon plus jeune âge, ma sœur m'était apparue comme un être au physique aussi étrange que ses habitudes. Elle ne savait que sourire sur commande, des petits rictus forcés qui lui étiraient les lèvres en des grimaces figées dont je voyais toute la fausseté. Ou bien encore, ma sœur était une entité robotisée, ça j'ai adoré, une entité robotisée, dont j'appris très vite à deviner la moindre des réactions. Donc c'est un jeu aussi, il y a un jeu presque de... Vous savez, il y a le Colin-Maillard, hein, donc lui c'est pas... Bon, il est invertébré, on l'a tout de suite défini, même dès l'échographie, il était mollasson. Il vient au monde, bon, et tout le monde essaye de le redresser, mais il n'y a rien à faire...
Non, parce qu'il a, aussi une forme d'esprit de contradiction, quoi. Et donc, par rapport à sa sœur, notamment, quoi. C'est-à-dire qu'il a aussi vu un modèle duquel il voulait s'éloigner, quoi.
L'indolence, c'est un art de vivre.
Voilà, et du coup, de voir un personnage comme sa sœur qui est si apte à suivre la discipline, à suivre ce que lui dit sa mère, et du coup, et de prendre un contre-pied, et donc le contre-pied face à quelqu'un d'hyperactif, c'est du coup la docilité.
Il contrarie personne. Mais quoique...
Et après, je pense que la l'oisiveté finit par contrarier. Parce que alors peut-être pas dès l'enfance, mais plus tard, à l'âge adulte, il va se retrouver dans des situations où le fait de ne pas agir, le fait de ne pas réagir, face à des gens qui parfois l'apprécient, l'aiment, ça peut aussi devenir un problème, ouais.
Vous avez dit dans une interview, je crois que c'est au magazine Transfuge, dont nous allons parler en fin d'émission d'ailleurs, que Charles Dubois, c'est un nom qui a peur.
Oui, oui, pour moi, oui. C'est une part de son refus d'agir vient de sa peur, quoi. De sa peur des autres, de sa peur du regard des autres. Oui, je pense qu'il y a une part de paresse qui est liée à le refus de l'effort, mais aussi, oui, il est très dans le... Très, très soucieux de ce que pensent de lui les autres, quoi.
Alors, à l'école, c'est un élève lambda. Il me suffisait d'en faire juste assez pour qu'on ne me demande pas d'en faire plus. J'étais un ballot savant, un petit binoclard timide qu'on supposait né pour cet environnement. Alors, qu'au fond de moi, je rêvais chaque jour d'y échapper. Donc, c'est vrai qu'il c'est un être un peu bizarre, inadapté, inadaptable.
Oui, bah, moi, j'aimais bien l'idée de... par rapport à l'école, de lui dire que c'est de son environnement, par rapport à son environnement familial, ses déterminismes sociaux et familiaux, c'est quelqu'un qui était fait pour réussir à l'école, quoi. Et d'ailleurs, dans un premier temps, et il s'en rend compte très tôt, il voit que il peut réussir sans faire d'efforts, parce qu'il a tous les codes, parce qu'il a une mère et une sœur qui peuvent l'aider, parce qu'il a ce capital culturel-là. Et puis après, à un moment donné, bah, ça suffit plus, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même, à un moment donné, un minimum faire d'efforts. Et moi, j'avais quand même envie de lui, que ce personnage ait cette conscience-là, quoi. Cette conscience de certains de ses privilèges. Qu'il soit un mauvais élève, en sachant qu'il aurait pu tout à fait être un bon élève, sans vraiment en faire beaucoup plus, quoi.
Et aussi, une caractéristique de votre roman, Julien Lesquiras, c'est qu'en fait... c'est une narration centrée donc sur lui, enfin sur Charles Dubois. Il y a des personnages qui traversent ce roman, mais c'est comme une conscience en éveil qui se met. Mais vous restez concentré, et je pense que ça, vous l'avez dit dans une autre interview, mais vous restez concentré sur cette ligne-là, oui, du narrateur, oui. Pas se disperser.
Oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui ne crée pas d'attache, quoi. C'est-à-dire que les personnages passent dans sa vie.
Ouais.
Il passe et puis il disparaît, il se lasse souvent face à son indolence. Et donc, voilà. Et puis moi, j'avais, oui, l'idée dans la construction, c'était aussi de, comme j'avais démarré depuis la naissance, depuis même avant la naissance, de rester, voilà, sur son flux de conscience à lui, et jusque le plus longtemps possible. Quoi.
Est-ce qu'il y a eu un modèle ? Est-ce que qu'elles ont ? Parce que il y a la première phrase. Comment s'est construit peu à peu le roman ?
Il n'y a pas vraiment de modèle dans la construction, quoi. En tout cas, pas de modèle conscient, quoi. Y a
oui,
peut-être
mais littéraire, des modèles littéraires.
Après, c'est plus des choses éparses où après il n'y a pas eu vraiment ouais, sur l'idée même il y avait des références cinématographiques quoi
ouais.
Notamment bah, genre, qui sont évoquées dans le livre quoi Alexandre le Bienheureux quoi des images comme ça de quelqu'un qui refusait le travail et après sur la construction du personnage il n'y avait pas forcément en tout cas de manière consciente alors après il y a peut-être des choses que j'ai lu et qui se sentent et que je m'en suis pas rendu compte au moment de l'écrire, mais j'avais pas forcément oui un modèle en tête précis de ni de construction ni de personnage de quelque chose que j'aurais pu lire. Oui.
Moi j'ai pensé à Antoine Doinel aussi à une sorte de il y a un
ouais,
côté très très cinématographique.
Oui, ouais. Après pour moi dans Antoine Doinel il y a une forme de d'insolence
oui,
qu'il n'y a pas chez Charles pas. Dubois quoi.
Après... Mais il y a une voix off. Enfin, je veux dire, il y a cette voix off qu'on ne quitte pas.
Ouais.
et elle est là. Donc, ça pourrait même faire un film. Hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, d'épisodes. Enfin, ça n'en finit pas.
Oui, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voudrait ne rien faire, qui prétend en tout cas vouloir ne rien faire, qui parfois se cache le plus possible, mais finalement... à la fois à lui et autour de lui, il lui arrive beaucoup de choses. Quoi.
Alors voici que tout à l'heure, je parlais de... J'étais venu au monde pour être un sportif de canapé. Ça, c'est une phrase à retenir. Cultivant l'art de la contradiction, j'étais un dépressif chronique muni d'un optimisme sans faille.
Oui, mais je trouve que ça le caractérise bien, parce que c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à la fois traîne une forme, parce que le comme on le disait, quoi, il a à la fois peur, il a en fait très très peu envie de faire des efforts, donc c'est aussi un des signes de la dépression. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, dans le fond, pense toujours qu'il s'en sortira. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, parfois dans certains parcours, quand on laisse s'accumuler les problèmes autour de soi, ça peut être aussi parce que parfois on est persuadé que finalement ça finira par bien se passer, que quelqu'un ou quelque chose viendra nous sauver. Quoi.
Il y a toujours quelqu'un d'ailleurs qui le tire d'affaire. Par exemple, il dit encore « J'étais encore résolu à ne jamais adhérer à d'autres formules que celles du moindre effort. » Donc il se laisse balloter comme des algues sur le bord du rivage, il est là, il passe d'un bord à l'autre, et finalement son histoire s'écrit, sa vie, il y a le temps, parce que le temps est très important dans votre roman, le temps passe, on le voit grandir finalement. Et on sent d'ailleurs, vous n'avez pas envie de quitter tellement ce personnage.
Ah non, j'aurais pu aller après y aller.
Il y aura une suite
Je ne pense pas, mais après, parce que ce serait aussi là, le danger de la répétition serait vraiment très grand. Mais après, j'aurais pu, pour le simple plaisir de l'écriture, en tout cas du premier jet, j'aurais pu continuer encore 40 années supplémentaires, quoi. Et trouver des épisodes à l'âge d'un âge plus avancé, jusqu'à... Oui, jusqu'au troisième âge, ouais. Après, bon, il y a aussi, à un moment donné, quand on a dans le roman et quand on l'écrit, quel que soit ce qu'on écrit, on sent aussi à un moment donné la fin qui s'impose à nous, quoi. Et donc là, c'était le cas, quoi.
Mmh. Est-ce qu'il y a eu, on sent qu'il y a eu un bonheur d'écriture.
Ah oui, c'était un bonheur, je ne sais pas si on peut le dire, une facilité aussi à partir du moment où j'ai trouvé le ton et la première phrase. Et puis la construction biographique aidait beaucoup à ça, c'est-à-dire que c'est venu assez facilement, quoi, là. Voilà. Bon. Donc après, il y a eu un nécessaire travail de correction, mais d'un coup, c'était comme sur une, on était dans un train et ça filait, quoi.
Faut être au diapason de son écriture.
Ouais.
Écoutez
ouais.
Le premier là. On va vous écouter d'ailleurs. On va écouter un premier extrait de votre livre. C'est vous qui lisez. Premier extrait. Je pense que c'est l'expérience de votre personnage, vous qui êtes libraire, et ben c'est dans la librairie où il va travailler à un moment donné de sa vie. Voilà, Florence, c'est à toi.
D'art de chez Citadel et Masneau et ses maîtres de Pléiade. Le magasin, malgré sa surface modeste, était un des plus rentables de Paris dans son secteur d'activité. Porté par la clientèle très aisée de son quartier, où se croisaient les derniers rejetons des familles bourgeoises des Cati et les nombreux députés qui partageaient leurs bureaux dans les environs, il désemplissait rarement et faisait la fierté de sa patronne, Madame Dumont, une sexagénaire autoritaire et crainte de tous ses employés. Perché derrière sa caisse du matin au soir, ses bouclettes serrées et ses petits yeux enfoncés lui donnaient l'air d'un caniche nain mais quelques heures en sa compagnie suffisaient pour comprendre que le roquet était teigneux. J'avais donc été recruté pour le poste de magasinier et, tous les jours, je descendais à la cave qui servait de réserve pour trier les arrivages et m'occuper des retours. Je n'en sortais que pour récupérer les livraisons, de lourds cartons que je portais à bout de bras ou pour répondre aux appels que me lançait la patronne à l'aide de l'interphone qui terrorisait la librairie entière et dont elle abusait avec un plaisir sadique. Tout le reste de la journée, j'étais terreux dans cette cave, sous la lumière blafarde d'une ampoule nue qui éclairait un plafond voûté dont le plâtre, mangé par les moisissures, s'effritait dans une poussière épaisse qui tombait sur la table où je triais les livres et laissait dans mes cheveux des traînées blanches qui me donnaient en fin de journée des allures d'apprenti boulanger. J'ouvrais les cartons des éditeurs, je sortais les livres, je les inscrivais dans le stock informatique, j'annotais au crayon à papier leur date d'arrivée sur la dernière page et je les empilais selon leur rayon de destination. Quand ma table de travail débordait, je remontais ces piles et les déposais devant chacun des rayons avant de redescendre à ma cave. Une trappe dans l'arrière-boutique permettait d'accéder à mon espace de travail et quand j'y étais, on la laissait ouverte pour m'autoriser à respirer un peu d'air pur. Parfois, pour accéder aux étagères qui occupaient le mur du fond, un employé refermait cette trappe et oubliait de la rouvrir en repartant. Je n'osais jamais me signaler, en pensant que quelqu'un finirait bien par venir me chercher. Une odeur d'humidité ancienne imprégnait cette cave en permanence, et de temps à autre, j'entendais gratter sous les vieux cartons empilés le long des murs, que personne n'avait bougé depuis des années. Des pièges à souris habilement placés révélaient de désagréables surprises à mon arrivée le lendemain matin, et cela suffisait à rassurer la patronne qui s'était inquiétée d'une dératisation trop coûteuse. Quelques jours plus tard, j'entendais gratter à nouveau. La librairie fonctionnait à un rythme soutenu, et les livraisons arrivaient souvent en quantité suffisante pour m'occuper toute la journée. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je n'avais presque jamais le temps de m'ennuyer et de me rendre compte de l'absurdité de ma tâche. Et chaque fois que l'activité s'assoupissait et que je me risquais à ralentir le rythme, l'interphone se mettait à grésiller. L'imparable Madame Dumont m'avait repéré à l'aide d'une des nombreuses caméras qu'elle avait disposées dans toute sa librairie et pour lesquelles elle avait dépensé pour une fois sans compter. Charles. Le simple appel de mon prénom suffisait à me faire précipiter au magasin et elle agissait de la même manière avec tous les autres employés. Comme un enfant surpris en faute, je déposais le livre que j'étais en train de feuilleter et je remontais le petit escalier. Derrière sa caisse, qu'elle ne quittait qu'en cas d'extrême urgence, la patronne me signalait de me tenir dans un coin de la librairie et d'attendre ses instructions. Pendant ce temps, elle se perdait en obséquiosité avec une de ses clientes habituelles, une de ces héritières des grandes familles industrielles qui d'un coup de porte-monnaie mettaient au pas toute cette rue commerçante et transformaient tous ces petits patrons arrogants en paillassons. Dans mon coin, le visage fermé et les mains dans le dos, je me régalais de l'ironie de ce spectacle et de la capacité infinie de reptation de certaines personnes devant l'illusion du prestige ou la promesse de quelques billets. Une fois cette cliente partie, la patronne me donnait une tâche quelconque à effectuer. Je déplaçais une pile de livres, j'allais lui en chercher une autre dans l'escalier qui montait à l'étage. Elle aurait pu s'en occuper, nous le savions tous les deux, mais elle avait passé son message. Je ne pouvais pas feuilleter les livres et je ne devais pas m'assoupir dans sa cave.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer.
veux pas travailler du tout, ni les uns ni les autres, voyez, on fait rien du tout. C'est Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence de Julien Lesquiera pour Mes vies parallèles. C'est un roman, à mon avis, l'un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire de janvier. Et ça vient de paraître aux éditions Le Dilettante. Alors Julien Lesquiera, voilà, j'aime bien écouter la tonalité, le croustillant de... Vous vous êtes écouté vous-même en train de vous lire. Qu'est-ce que la lecture à voix haute vous apporte, vous qui êtes libraire, vous qui goûtez les livres, c'est votre profession aussi.
Alors, sur mon propre texte, c'est parfois plus compliqué de s'entendre. Mais par contre, j'aime bien, moi, lire à voix haute de temps en temps des passages de livres que j'aime bien.
Ouais.
Que j'ai de les relire souvent à voix, quand on fait une première lecture, et puis de temps en temps, quand je vais repiocher dans des lectures, même pour moi, tout seul, j'aime bien, oui, relire des passages à voix haute, et effectivement ça prend tout de suite une autre tonalité.
Ouais. Et c'est vrai, je parlais de voix off tout à l'heure, on l'entend cette voix off, on entend cette tonalité. Je flottais comme un fantôme dans cet univers qu'ils habitaient et qui ne serait jamais le mien, et qui ne serait jamais le bien. Parce que c'est un... Il écrit sa vie, enfin il est écrit par sa vie. Il écrit
oui,
sa
parce
vie.
Qu'il est dans la passivité, donc comme... Ouais, il s'écoute beaucoup, il se regarde beaucoup vivre, et il presque autant qu'il regarde vivre les autres, et qu'il est toujours en train de comparer aussi sa propre vie ou son absence de vie à la vie trépidante ou qu'il imagine trépidante des autres, quoi. Et donc il est beaucoup en comparaison avec les autres.
Et avec ce prénom de Charles, je crois que c'est le prénom de son père d'ailleurs.
Oui, tout à fait, ouais.
Alors c'est tout de suite, là, il est en décalage, y compris avec son prénom.
Oui, il est un prénom très sévère, très classique, du coup, qui... Et alors après, moi, je ne suis pas forcément très comment... attaché au prénom. Je n'y accorde pas nécessairement une grande importance dans le choix que j'en fais pour les personnages, même si je sais qu'ils sont toujours signifiants, quoi. Mais du coup, je ne sais pas, à part dire que c'est un prénom classique et sévère, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, moi, sur son prénom, à part que c'est celui de son père, et que ça crée des situations par rapport à sa mère, par rapport ensuite à sa grand-mère. Mais voilà, je sais que dans le processus d'écriture, j'y attache pas nécessairement beaucoup, beaucoup d'importance, quoi.
Ouais, pourtant, il y a un côté suranné, il y a un côté ancien, un peu naphtaline aussi. Enfin, je sais pas, il a avec lui.
Son... Oui, en tout cas, c'est pas un prénom de sa génération, c'est sûr.
Ouais, c'est pas Dubois en plus. Je sais pas, vas-y, Charles Dubois, bon, bref. Et puis alors, il coche aucune case. Il me fallait un espace de survie, un horizon dégagé où je ne croiserais aucun regard. Est-ce qu'on peut parler d'évitiste ? Le fait d'éviter...
Oui. Alors, je pense qu'un de ses idéaux, c'est de pouvoir être à l'abri de tout, quoi, à l'abri surtout du regard des autres, quoi, et d'éviter toute forme de contrainte, toute forme d'effort, toute forme d'imprévu aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui déteste ce qui est imprévu et qui adore la routine, quoi. Et même très jeune, parce que voilà, très jeune, il a des attitudes de vieux, en fait, quoi. Il veut ça.
Oui, c'est un vieux avant.
C'est ça. C'est
mais il n'y a pas que lui. Hein.
Un vieillard précoce, quoi, comme on disait.
Ouais.
Et donc oui. Et après ça, en somme, là-dessus, il n'est pas forcément très original, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vieillissent très vite, quoi. Mais oui, et dans ce sens-là, lui, il veut éviter beaucoup de choses, ouais.
En fait, il n'y a pas que lui, parce que sa sœur, elle est vieille aussi avant l'âge.
Oui.
Tout le monde... Tout,
mais sa sœur, c'est une enfant adulte, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que j'ai imaginé, quoi. C'est que c'est des 10 ans, c'est-à-dire qu'au moment où Charles apparaît, elle a déjà 10 ans, mais elle vit et pense comme une presque une trentenaire, quoi.
Ouais, mais bon, il est entouré quand même de vieux avant l'âge. Enfin, la société... et comme il n'est pas dupe... Donc, de toute façon, n'étant pas dupe, il est sans arrêt aux aguets, comme ça. Alors, il rencontre des personnages. Alors, il a des amis. Donc, Arnaud, par exemple. Nous ne partagions pas grand-chose que notre sauvagerie sociale et notre volonté farouche de ne rien faire. Mais nous le faisions avec une complicité silencieuse où chacun permettait à l'autre de vivre dans l'illusion de ses mensonges et ce peu nous suffisait à croire en notre amitié.
Oui. Arnaud, pour moi, c'est l'occasion de parler d'une amitié toxique, quoi. C'est-à-dire que
complètement toxique, hein,
ouais. Qui a été beaucoup solitaire dans ses premiers temps au collège, et d'un coup il tombe sur ce garçon qui est plus âgé que lui, et qui va le prendre sous son aile sans forcément le claironner, mais il va quand même le prendre sous son aile, et puis lui il va se mettre à le suivre aveuglément, et parce que c'est aussi une amitié qui se passe dans la passivité, quoi. C'est-à-dire qu'ils font pas grand-chose, quoi. Ils font même souvent rien.
Rien.
Mais ils le font ensemble, et je pense du coup ça lui fait l'illusion d'une amitié, et qui, voilà. Par contre, il va être, je pense, à la fin assez sous emprise de ce garçon plus âgé. Ouais.
Puis il y a aussi Carmen. Carmen m'avait laissé croire que mon indolence taiseuse pouvait se transformer en arme de séduction massive. Il me suffisait donc d'attendre sans rien faire. J'étais abattable à ce jeu. D'ailleurs, il aime bien aller à la pêche avec le grand grec. Hein, parce que le grand grec. Mais alors, la pêche, il connaît quand même. Il est passif, mais il attend que les choses viennent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il avait que ce soit dans parce que Carmen, c'est le premier baiser, les premières amours, si on peut dire, quoi. Et que là, en fait, lui, à chaque fois, son idée, c'est d'essayer de trouver une solution pour vivre ses rites d'initiation, mais sans faire d'efforts, quoi. Et donc, voilà. Donc là, du coup, Carmen, c'est cet épisode-là. Et puis après, plus tard, au lycée, quand il découvre la pêche avec un autre ami, il découvre une activité qui est basée sur l'attente, ou en tout cas principalement sur l'attente, et il se dit, voilà, il se dit, c'est peut-être, j'ai enfin trouvé ce que j'aimais faire dans la vie, quoi.
Avec Damien Charlier, le grand grec. Moi, j'ai bien aimé ce personnage.
Oui, parce que c'est un... Alors, contrairement à l'autre amitié au collège, là, c'est une amitié qui est plus solaire, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le tire vers le haut, en tout cas qui le tire vers un peu plus de sociabilité. C'est un personnage qui est très, très populaire au lycée, qu'il le prend sous son aile cette fois, mais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sympathie. Et donc, après, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Ouais, parce que
drapeau grec collé sur le casque de son scooter. Avec lui, c'est l'aventure, la pêche à la ligne, l'évasion. C'est vrai qu'il est vraiment... il est sympathique, c'est un courant d'air. Il passe comme un courant d'air
Oui, et puis en fait, c'était parce que il y a beaucoup de personnages qui côtoient Charles et qui sont souvent des personnages en teinte négative, qui sont soit des gens qui vont l'agacer, qui vont l'ennuyer, qui vont parfois même le brutaliser. Et là, c'était quelqu'un qui est extrêmement solaire, extrêmement bienveillant, extrêmement sympathique, qui aurait pu...
Qui ne le jugeait pas.
Voilà, qui l'acceptait comme il était, qui acceptait ses... Et puis, donc c'était intéressant aussi de le voir côtoyer une amitié comme ça, quoi.
Alors, il y a aussi le macaque édenté, le bûcheron canadien, bref, ça tourbillonne quand même autour de lui, et lui se laisse faire sans se laisser faire, voilà. Alors, avant de faire d'écouter un second extrait de votre livre, on va quand même continuer à en parler, parce qu'il y a aussi les livres, au fur et à mesure... De l'évolution de votre personnage, il a la conscience politique. Enfin, il n'a pas de conscience politique.
Non, hein. Il vit avec une mère qui est dans la tradition du mérite républicain, qui écoute France Inter. Donc, il a cette conscience qu'il baigne dedans. Après, lui-même ne réfléchit pas forcément à ces questions, ne se pose certainement pas la question de sa place dans la société, de ce qu'il pourrait faire pour l'améliorer, quoi. Donc là-dessus, non, il n'a pas de conscience politique.
Il est de gauche sans être de gauche, il côtoie des extrêmes
Il ne vote pas, de toute façon, il ne suit pas du tout l'actualité politique, il ne rentre pas dans des débats politiques avec les autres, non.
Mais il y a des livres, et il y a le livre de l'intranquillité de Pessoa, et ça j'ai bien aimé. Toutes ces lignes avaient un point commun, donc il y a la lecture, hein. Elle semblait avoir été écrite pour moi. Pour la première fois de ma vie, je saisissais le pouvoir magique de la lecture, cette idée essentielle d'une voix qui parle à l'oreille et vous bouleverse par sa clarté révélatrice.
Oui, mais pour moi, ça, c'était ça arrive à peu près, d'ailleurs, je pense, à la moitié du roman. Je trouvais ça intéressant, parce qu'avant il ne lit pas, alors qu'il est dans un environnement familial où il y a des livres, il est scolarisé, jamais il a ce déclic de la lecture.
Il mange beaucoup.
Il se goinfre plus qu'il ne mange. Et puis, donc voilà, et je trouvais que la découverte de Pessoa par hasard, presque par hasard, quand il est à l'armée et qu'il trouve ce livre abandonné, Et ça avait du coup à la fois du sens pour lui, parce que d'un coup, il allait découvrir un univers et puis une occasion d'être passif, mais de façon un peu plus constructive. Et puis après, moi, il y avait aussi l'idée derrière, c'est peut-être là du coup mon côté libraire, que je pense qu'il n'y a pas de gens qui n'aiment pas lire, il n'y a que des gens qui n'ont pas rencontré le bon livre, quoi. Et que là, d'un coup, il trouvait le bon livre, c'est-à-dire que quelqu'un qui lui tapait sur l'épaule, qui lui parlait et qui lui disait exactement ce qu'il aurait aimé pouvoir formuler. Et d'un coup, c'était formulé de façon magnifique et ça le bouleversait, quoi.
Ouais, c'est vrai que j'étais tout à fait seule, je pouvais régler la tristesse de mon existence et la réduire en quelques miettes. Ça, c'est là que je parle de votre sens de la formule imagée. Et la réduire en quelques miettes salées qui venaient coller à mes doigts. On a tout le personnage. Oui. Dans cette phrase, on a tout le dessin du personnage. Oui. On le voit.
Oui, qui est à la fois négligé, avachi, et puis qui est quand même rêveur aussi, quoi.
Et puis il y a Paris, ça j'ai bien aimé aussi. Nous étions quelques-uns à traîner dans Paris sur les traces de nos vies oisives. Nous nous reconnaissions de loin et nous ne nous parlions pas. Nous nous efforcions de nous perdre à nouveau pour nous fondre dans la foule travailleuse. Nous ne voulions rien changer à l'ordre des choses qui garantissait ces failles où nous voulions nous glisser. Et on fait une rencontre avec un autre personnage.
Oui.
Cinéma. Michel, le veilleur de nuit d'un hôtel, pas terrible d'ailleurs, c'est un veilleur de nuit qui le repère et qui lui dit « Toi, t'es vraiment un traînard ».
Oui. Et en fait, oui, ça correspond aussi à l'âge où il est maintenant un jeune adulte, quoi. Il est sorti de son expérience un peu désastreuse de l'armée. Et puis, alors que longtemps, à l'adolescence et plutôt à l'enfance, il s'est pensé seul, il lui pensait qu'il était le seul à être comme ça. D'un coup, petit à petit, il repère que il y a des gens comme lui, il y a des gens qui sont un peu perdus, un peu oisifs, un peu traînards. Et voilà, Michel, c'est une autre rencontre lumineuse, quoi. Une autre personne qui le met d'abord sur le chemin de la littérature et qui lui donne des conseils très brefs, mais dont il se souviendra, oui.
Et il se repère comme ça. Et lui aussi, d'ailleurs, alors je pense que c'est lui qui lui dresse... une sorte de bibliothèque idéale,
oui, tout à fait,
de tout Cossard qui se respecte. Alors, il y a Albert Cossery, Istrati et Henri de Montfred. Henri de Montfred, c'était un sacré loustique.
Oui.
Et c'est marrant parce que voilà, il le repère, il lui donne des repères aussi. Et d'ailleurs, il va lui trouver un emploi.
Oui, ouais, parce qu'après, lui, en fait, Charles est aussi un personnage qui a beaucoup de chance, qui fait des gens qui l'aide beaucoup, quoi. Et notamment ce personnage de Michel, qui est à la fois une sorte de guide un peu spirituel, qui va lui donner des conseils, qui va, pareil, disparaître très tôt.
Oui.
Il reste que quelques mois, à peine dans sa vie. Et puis après, ils auront plus... Voilà, ils se quittent en se promettant de ne plus donner de nouvelles, quoi. Mais c'est quelqu'un, oui, qui est déterminant dans sa vie, oui.
Et sa philosophie, c'est pas d'adieu et plus de nouvelles.
Oui, et qui convient très bien à Charles, quoi.
Et il va la reprendre.
Oui, qui va l'appliquer après.
Parce qu'au fur et à mesure, comme c'est une écriture, je dis à nos auditeurs, très nourrie, il y a des reprises, une écriture qui se nourrit d'elle-même et qui tresse tout un... Alors, l'entretien là, dont je parlais tout à l'heure, on vous parle de Flaubert. Moi, je n'ai pas trouvé du tout de ressemblance avec Flaubert.
Moi non plus.
Et je trouve, par contre, il y a un côté comédie humaine.
Oui, après oui, parce que moi, je sais que je prends beaucoup de plaisir à dresser des portraits, quoi. Et il y avait en plus l'idée, ça je l'avais eu très tôt dans la construction, qu'en partant avec un personnage oisif qui parle peu, qui fait peu de choses, c'est l'occasion de faire exister les autres autour de lui, quoi. Lui, il est observateur et du coup, les personnages se révèlent plus avec quelqu'un qui se tait qu'avec quelqu'un qui parle, quoi.
On pourrait dire que c'est un révélateur de...
Oui, de tout un tas de choses, ouais, de qualité, de défaut, d'excès aussi, mais oui.
Vous plongez dans un bouillon de culture.
C'est ça, oui.
Un élément inactif au milieu d'un bouillonnement.
C'est ça. Et on voit ce qui ressort.
Et on voit ce qui ressort. On va écouter votre deuxième extrait de votre livre, et puis on poursuit notre conversation ensuite.
Au fond de ma cave, quand je n'étais pas appelé par le grésillement de l'interphone, je m'amusais à reconnaître les voix des célébrités qui habitaient le quartier et passaient parfois par la librairie. La plupart d'entre elles, des semi-vedettes politiques ou des acteurs finissants, m'étaient assez indifférentes. Mais un beau jour, alors que je me battais avec un carton retors et un cutter rouillé, j'entendis la voix de Thierry Roland. Un collègue m'avait parlé de sa présence dans le quartier, mais je n'avais pas osé croire à cette légende. Thierry Roland, la voix de la France, l'homme du 12 juillet qui avait failli m'envoyer de vise à trépas avec son injonction de mort tranquille, était à quelques mètres de moi. N'y tenant plus, je grimpais l'escalier et j'allais vérifier ce mirage sonore. Au beau milieu du rayon des bandes dessinées, il écoutait les conseils de mon collègue et laissait échapper de temps à autre son rire si particulier. Ma journée brilla alors d'une toute autre lumière. Face aux agissements dictatoriaux et imprévisibles de la patronne, les employés défilaient et repartaient quand ils étaient arrivés au bout de leur dégoût et de leur colère. Habitué à subir sans rien opposer à mon destin tortueux, je continuais à me terrer dans ma cave et à trier mes piles de livres sous mon petit halo de lumière jaune. De temps à autre, une grosse plaque de plâtre tombait du plafond et j'allais l'empiler avec les autres dans un coin de la cave. Rien ne m'inquiétait vraiment, tout était devenu routinier. Quelques employés semblaient partager mon sens de la lutte et s'accrochaient à leur poste et cette ambiance de travail détestable. Antoine, qui s'occupait des rayons jeunesse et bandes dessinées et qui était entré peu de temps avant moi, semblait lui aussi prêt au combat. Sous des dehors calmes, il bouillonnait en permanence devant l'incohérence des décisions que lui imposait notre patronne et le mépris qu'elle affichait pour son travail. De temps à autre, il explosait de colère et, enfermé dans les toilettes, il donnait des grands coups de poing dans les murs avant de ressortir et de reprendre son poste, un sourire figé sur son visage pâle. Quand je le croisais avant et après son travail, il arpentait le quartier à pas nerveux en tirant avec fièvre sur les cigarettes qu'il enchaînait l'une après l'autre. Le reste du temps, il avait l'allure d'un charmant garçon et était l'un des rares à s'autoriser des descentes à la cave pour s'assurer que je respirais encore. Corinne, qui s'occupait du rayon littérature et des commandes, était une autre énigme. Sorte de fille putative de la patronne, elle subissait toutes les humiliations sans oser le moindre mot de protestation. Présente du matin au soir dans la petite alcôve que dessinait son rayon et où elle s'installait derrière un minuscule bureau, elle avait abandonné tout espoir d'en sortir un jour et ne faisait même plus semblant d'y croire. Le soir, elle partait avec sa petite pile de livres et savait qu'elle y trouverait sa seule joie. Elle parlait avec un bel enthousiasme de ses lectures. Il m'arrivait de retenir quelques-uns de ses conseils, malgré le mépris que je ne pouvais m'empêcher de ressentir à son encontre et qui n'était que le fruit de l'effet miroir que je constatais en comparant la tristesse de nos deux existences. François, qui officiait comme chef libraire, était le beau-fils de la patronne. Il jouissait à ce titre d'avantages tacites dont il abusait avec allégresse. Il se tenait à une distance respectable des tâches les plus ingrates et effectuait les autres avec une nonchalance rarement démentie. Il disparaissait souvent pour quelques livraisons mystérieuses dont il revenait de longues minutes plus tard, un sachet odorant de boulangerie à la main. Il descendait à la cave et mangeait sous mon nez son chausson fourré ou ses croissants chauds. Il abandonnait invariablement la moitié sur un coin de la table où je triais mes livres. Derrière les cartons, j'entendais déjà grouiller les souris, alléchées par l'odeur grasse. Sous ses airs d'indifférence, il cachait une profonde dépression dont il venait parfois m'exposer les tenants et les aboutissants. Seul dans ma cave, taiseux et étranger à ce monde, je devenais le confident idéal pour lui. Impassible, j'écoutais ses histoires de couple, ses désirs d'ailleurs et ses regrets de travailler ici depuis trop longtemps. T'as de la chance d'être aussi libre, Charles. Tu peux faire ce que tu veux. Tu mènes ta petite vie. J'aimerais bien être à ta place. Le soir, dans la solitude de ma chambre, je savourais ma chance et mon bonheur grâce à lui. Sans ce type, j'aurais presque pu croire à mon malheur et tenter d'y changer quelque chose.
Alors maintenant, une plage musicale qui date de la toute fin du siècle dernier, comme celle de Pink Martini sympathique que nous avons entendu tout à l'heure. Est-ce qu'il est besoin de présenter Cesaria Evora?
Saudade, saudade. drink now. Soda, 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 this never sunny cloud. Quem mostrava esse caminho passando-me? Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando-me? Saudade, 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 diz minha terra, San Inclão. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclão. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclão.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence de Julien Lesquiera pour Mes vies parallèles, c'est un roman et ça vient de paraître aux éditions Le Dilettante. Alors, on est en compagnie de Charles Dubois, qui est un personnage qui veut rien faire, ou presque rien faire, enfin bref, qui se laisse porter par les événements de la vie, comme on se laisse porter par la musique. Et puis, j'en profite justement pour parler du voyage, parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment un personnage représentatif de notre société. Parce que tout d'un coup le voyage va le faire sortir de son inaction. J'avais pris l'avion pour l'Argentine, je n'avais pas de billet de retour ni de projet défini, mais pour la première fois de ma vie, je ne regardais plus les trains passer. Je pensais alors dire adieu à l'ennui et à 30 années d'avachissement. Et ça m'a fait penser vraiment à notre société.
Oui, oui. Voilà. Après, en ça, il est très dans, l'air du temps. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire dans à la fois dans la quête du lointain, dans une certaine forme de recherche de l'exotisme, et puis dans l'idée que le voyage représente une solution, quoi, une rupture à ces problèmes, quels qu'ils soient. Quoi. Et c'est aussi le voyage dans le roman, c'est aussi une rupture narrative, parce que c'est enfin un moment où il décide seul
quelque
de
chose.
Ne pas subir, ouais. Et de prendre le taureau par les cornes et d'aller chercher, de tout prendre un billet d'avion, de partir au bout du monde, de se mettre du coup face à l'inattendu quasi obligatoire. Et donc oui, c'était intéressant ça. Et c'est vrai que voilà, moi je ne l'avais pas forcément pensé, mais maintenant que vous le dites, je trouve ça assez juste, que c'est quelque chose où pour le coup il ressemble beaucoup à son époque. Quoi.
Oui, parce que il est touriste de lui-même.
Oui.
Il se regarde vivre.
Ah, il se regarde beaucoup, oui, oui. Et du coup, finalement, oui, il va aussi beaucoup se regarder en voyage, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où on aurait pu penser qu'il serait un peu plus tourné vers l'extérieur, puisqu'il est confronté à la nouveauté. Et là encore, dans le voyage, il est aussi tourné vers lui-même, quoi.
Il est tourné vers lui-même, il ne regarde pas vraiment les autres comme tous les gens qui sont dans des transports, qui sont sur leur écran, qui ne se voient pas, enfermés dans leur bulle et qui se déplacent pourtant, mais qui sont immobiles. Enfin, une sorte d'immobilité dans la mobilité. Et il y a autre chose aussi, donc il fallait qu'on parle du voyage, et c'est vrai que là, il bouge. Et puis, il y a l'étape du couple.
Oui.
Et c'est pas mal du tout, parce que vous parlez pas du couple, mais de la solitude à deux.
Oui, 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 tout à fait.
Là encore, voilà, avec une dénommée Gwenaëlle, d'ailleurs, qui essaye de le secouer, j'arrive pas vraiment. Nous devions un couple de petits vieux précoces. Nous passions nos soirées ainsi, sans jamais inviter personne, et sans oser affronter un monde qui nous terrifiait avec la même intensité. Assis sur ce canapé, nous ressemblions alors à un dessin de Sempé, un peu touchant, à peine romantique, et dévoré par l'ennui.
Oui, après pour moi, l'histoire de ce couple, c'est deux âmes solitaires, deux âmes effrayées par la vie, et qui se trouvent, et qui pensent trouver dans cette union, en tout cas je pense plus du côté de Gwenaëlle que du côté de Charles, une solution, quoi. C'est-à-dire que avec quelqu'un qui nous ressemble, on peut se laisser aller à ses défauts, à sa pente naturelle. On est quand même moins seul, en tout cas au départ, puisqu'après, finalement, je pense que c'est encore pire. Quoi.
Oui, c'est ça.
Et après, oui, il y avait l'idée d'un avachissement synchronisé, quoi. C'est-à-dire que deux personnes que la rencontre, normalement, c'est aussi pour se révéler à soi-même et pour s'extirper de ses mauvaises habitudes, se révéler, quoi. Et que là, c'est deux personnes qui vont se tirer vers le bas en même temps, quoi.
Ouais, ça me fait penser comme ces vieux couples qu'on voit des fois en bord de mer qui se tiennent la main, qui longent comme ça,
qui marchent très mollement,
et se tiennent comme s'ils se tenaient en laisse,
oui,
l'un et l'autre. Non, mais, je suis terrible, moi. Mais bon, c'est ça me fait penser à cette image-là. Et d'ailleurs, il y a un dialogue aussi épatant. Tu es heureux comme ça, ta vie, notre vie, ça te va. On se débrouille. On se débrouille. C'est quoi cette réponse? C'est ça que tu veux pour nous? Qu'on se débrouille? Mais il n'arrête pas de se débrouiller.
Oui.
Hein.
Oui. Alors ça, du coup, c'est au moment où elle prend enfin conscience et qu'elle n'accepte plus cette situation où ils coulent tous les deux, quoi.
Ouais.
Et que lui, il aurait pu encore continuer longtemps, quoi, à couler avec elle. Et c'est là aussi où revient son trait de caractère de lâcheté, quoi. C'est pas dire qu'il ne se fait plus simplement du mal à lui-même, il lui fait du mal aussi à une personne. Il enfonce cette pauvre jeune femme vers le bas, quoi. Et sans vraiment de scrupules, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de regrets à la négliger, à la mépriser même, tout en continuant à vivre avec elle, quoi.
Oui, puisque lui-même se méprise.
Oui, donc après, pour lui, il n'y a pas de... Étant habitué à s'appliquer ce genre de traitement, il n'y voit pas de souci, quoi.
Ouais. Donc il rompe, pas d'adieu, pas de nouvelles, et encore moins de souvenirs. C'était ma marque de fabrique.
Oui, voilà. Oui, donc là, oui, c'est l'idée de reprendre la boucle que j'avais laissée, le vieux conseil que lui avait laissé à l'époque Michel, et qu'il a, alors pas forcément de la meilleure des manières, de la plus élégante en tout cas, mais qu'il applique aussi. Ouais.
Oui, et encore référence à une époque amnésique du jetable.
Oui.
Du passage, du passage sans trace.
Oui, c'est ça. Et puis après, lui, il a toujours eu ce côté-là, quoi. C'est-à-dire qu'il c'est pas quelqu'un qui, une fois qu'il a laissé ses amitiés, même des amitiés heureuses, il cherche pas à retrouver trace, quoi. Et puis là, oui, d'après cette histoire aussi. Après lui, je pense qu'il n'a jamais vraiment été amoureux, quoi. Il a jamais vraiment eu de et donc après. Je pense qu'il n'y a pas de trace aussi, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de quelque chose d'inscrit en lui avec cette histoire.
D'abord, il ne sait pas très bien où il en est de son identité. On sait...
Non, je pense qu'en fait, il est à la limite de la sexualité, en fait. Quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est... Alors, le paradoxe, c'est qu'il n'est pas totalement... Parce qu'il a quand même du désir, une forme de désir, puisqu'il est beaucoup dans la masturbation et dans le fantasme. Quoi. Mais dès que ça doit devenir concret, charnellement... Il est plus investi, quoi.
Il est devant l'écran de sa vie.
Oui, voilà, c'est-à-dire que là, il faut s'engager littéralement, il n'y est plus, quoi.
Il n'y a pas de risque, pas de... Et alors, il écoute Léo Ferré, je crois, choisissez mes chansons de rupture les plus amères, ces grandes tirades égocentriques, où je ne prenais que les bribes qui m'arrangeaient, parce qu'il est malin.
Mais oui, c'est-à-dire qu'il s'écoute beaucoup... Et donc voilà, quand on écoute, c'est comme quand on lit un livre, ou quand on prend ce qu'on arrange, On lit entre les lignes, comme on dit, quoi. Et donc, lui, il lit beaucoup entre les lignes. Ouais.
Et puis, à un moment donné, il y a l'écriture, parce que finalement, il est doué. Hein. Évidemment, puisqu'il est revenu de tout.
Donc, oui, et puis après, c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup.
Ouais.
Donc, forcément, son imaginaire et son sens de l'observation est aiguisé à force de s'ennuyer aussi.
Tout prenait sens, tout se tenait dans ce qui s'échappait en fin de mois. L'aventure était peut-être dans l'écriture. Donc, je crois qu'il fait son blog. Il va.
D'abord, oui. Alors, il essaye d'abord d'écrire un premier roman. Et puis après, en fait, c'est par ce roman est rejeté, en tout cas ignoré par tous les éditeurs à qui il l'envoie. Et dans une forme de frustration, du coup, il se met à écrire des chroniques sur un blog, des chroniques assez virulente, assez méchante, assez mesquine parfois, et qui lui servent de pour soulager cette frustration, quoi.
Et puis il est employé enfin dans une sorte de sur un site où il va réécrire.
Là c'était l'idée de construction de mettre un personnage comme ça qui est assez inadapté à son époque, en tout cas qui est vieilli avant l'âge, et de le mettre dans une ambiance très de jeunisme absolu, de branchitude absolue, et de s'amuser du décalage, quoi.
Il rencontre un dénommé Charlie qui lui promet qu'il, soi-disant, aurait lu ses chroniques, mais il n'a rien lu du tout.
Oui, voilà, de le faire et c'était aussi une manière aussi de voir que c'est quelqu'un qui est toujours influençable, quoi, et qui s'accroche facilement à des petites choses. Et qui, voilà, et qu'un âge, pourtant, il est déjà
avancé
dans la trentaine, est encore très, très naïf, quoi.
Très naïf. J'étais un vieillard précoce et on me payait pour ça, pour afficher un contre-exemple, ça j'aime bien, un contre-exemple, au milieu de leur bienséance clonée. Et c'était sans doute la seule explication possible à ce travail absurde pour lequel jamais personne n'aurait jamais dû me payer. Donc... Il réécrit des... Tout le monde s'en fiche. Hein.
Oui, en fait, il est là pour corriger des chroniques que personne ne lit. Et ce qui est finalement un travail qui est fait pour lui, quelque part. Quoi. Et alors après, il s'en rend compte assez tôt. Mais encore une fois, il ne s'en révolte pas. Quoi. C'est-à-dire qu'il sait que c'est absurde. Mais il continue quand même pendant longtemps. Quoi.
Alors, il y a des références, toujours, moi j'ai bien aimé aussi, parce qu'il y a des références littéraires, James Ellroy, par exemple, Ma part d'ombre, Amos Oz. Donc voilà, ouais. Ils sont des auteurs qu'on comptait
oui,
pour vous.
Oui, après, oui, là, ça c'est des références littéraires évidentes, et après là c'était des exemples, en plus, surtout le James Ellroy, dans Ma part d'ombre, où là, il y a une solitude extrême qui est décrite, quoi, une solitude vraiment de très très sombre, et qui vire vers le... vers la frustration et vers l'agressivité, quoi. Et c'était au moment où le personnage de Charles découvre cette frustration, quoi. Il est entouré de ces jeunes gens arrogants qui le prennent de haut. Lui a toujours ce désir d'écriture au fond de lui, mais qui n'est pas reconnu. Et voilà. Et donc il va trouver dans des modèles comme ça, comme James Ellroy, une sorte d'exemple pour de choses comment gérer cette frustration, la transformer en colère, même si lui n'ose jamais aller vers la colère et vers la confrontation. Mais voilà, de lire ces lignes, ça le soulage. Quoi.
Oui, parce qu'entre la première phrase de votre livre et la dernière phrase, en fait, petit à petit, quand même, il y a le sport de combat. Enfin, je veux dire, il va quand même se relever. On sent que petit à petit, il réagit malgré tout. Quoi. Enfin,
oui, il prend. Et après, il y a une forme de. Je ne sais pas si c'est de l'ambition, mais il a quand même. Il se rend compte qu'il a quand même envie de certaines choses, quoi, notamment autour de l'écriture, que c'est quelque chose qui quand même le poursuit un peu, et que je pense que c'est quelqu'un qui, même s'il ne le montre pas, qui est quand même assez fier, quoi, au fond, qui a une forme de fierté aussi dans son refus d'aller vers les autres, quoi. Il a même s'il prétend sous le contraire, il a une certaine idée de lui-même, quoi, de sa propre valeur, quoi.
C'est le dernier des Mohicans, ouais, le dernier
et
des...
Donc, oui, de quelqu'un qui ne fait pas comme les autres et tout. Et donc, du coup, dans la non-reconnaissance de son talent d'écrivain, il le vit aussi plutôt comme une occasion à se remettre en cause et à travailler encore plus. C'est plus pour lui, c'est que simplement le jugement des autres n'est pas à sa hauteur. Quoi.
C'est voyage au bout de ma difficulté d'être,
oui.
Sans doute. Il y a aussi des portraits de lecteurs, j'ai bien aimé, dans la bibliothèque de Pantin. À force, je finissais par reconnaître quelques-uns de ces échoués et je m'amusais de leurs petites habitudes. Je m'interrogeais sur ce grand rouquin, avec ses lunettes rapiécées avec du gros scotch noir et qui, pendant des heures, recopiait sur des fiches cartonnées les pages d'un livre choisi au hasard. En vieillissant, je m'attachais de plus en plus à ces combattants de l'inutile, c'est pour ça que c'est un combattant de l'inutile. Ils ouvraient d'autres voies dans des luttes pour l'oisiveté et ne s'en doutaient même pas.
Oui, oui, ça c'est des choses que j'ai pu observer, alors pas forcément exactement cette situation-là, mais dans les bibliothèques, les salles de lecture, les choses comme ça, vous avez évidemment des étudiants, des étudiantes, et vous avez aussi des gens qui... d'être bien plus âgés et qui sont là et vous sentez que comme aurait dit Michel qui sont des traînards quoi et qui sont là et des voilà qui parfois recopient des livres sur des cahiers qui parfois sont là à faire semblant de lire aussi. Moi, j'ai pu observer ça quoi des pour être là quoi et que oui je trouvais ça que c'est un lieu en fait intéressant toujours une déjà parce que c'est rempli de livres et puis parce qu'il y a des gens qui s'y croisent et qui ne s'y croisent pas d'ordinaire quoi, c'est-à-dire des étudiants qui sont très au début leur vie est plein d'ambition et avides d'apprendre et des gens qui ont déjà échoué quoi. C'est... et qui viennent à la bibliothèque littéralement s'échouer et qui ont renoncé à beaucoup de choses. Et je trouve que voilà, c'est des gens qui ne se croisent nulle part ailleurs que dans cet endroit. Quoi.
Puis alors, il rencontre, alors il finit par écrire, il écrit et il rencontre les éditions du Lapin Furtif. Moi, j'ai adoré, quoi. Enfin, c'est...
Oui.
C'est plus vrai que vrai, quoi. Le Lapin Furtif, oui. Mais... avec un dénommé Toulouse.
Oui, c'est ça.
Alors ouais. Celui-là, cet éditeur, avec une Mylène aussi. Alors cette Mylène, on va en reparler aussi par la suite, là, parce qu'elle a la suite dans les idées,
oui,
celle-là.
Oui.
Mais alors Toulouse, c'est un éditeur louche, quoi.
Oui, après, là,
louche,
c'est,
quoi,
là c'est le plaisir de l'écriteur de faire un personnage truculent et qui est... Voilà, et
qui est sympathique, crois pas.
Et qui est très sympathique et qui, en même temps, est voilà, un pied nickelé, hein, quelqu'un qui a assez peu de considération pour les autres, qui est un grand menteur aussi, quoi. Et voilà, et c'est évidemment amusant de le confronter à Charles, qui une fois de plus va se laisser mener tranquillement par le bout du nez, quoi.
Puis après, cette dénommée Mylène va le mettre dans un... va le repérer pour... enfin, ça, c'est... enfin, c'est il y a des rebondissements, on n'en finit plus.
Oui.
Donc elle va le repérer pour une sorte
de démission de télé-réalité,
ouais. Ouais. Catholique, ça, ouais. Catéo, ouais. Là, enfin c'est un truc.
Là c'est le plaisir de la farce, quoi, d'imaginer que même la chaîne catholique Catéo qui ferait une émission de télé-réalité, qui la ferait donc forcément sur les sept péchés capitaux,
ouais.
Et ça permettait du coup de trouver un rôle tout trouvé à Charles avec la paresse. Et de créer après à côté une galerie de portraits, de s'amuser avec les caricatures.
Il y a tout, il y a la gourmandise.
C'est ça,
enfin, c'est vraiment épatant parce qu'on est. Et elle, cette Mylène, alors elle a des idées quand même. Elle va le reviriliser.
Oui,
là,
oui.
Alors,
Donc ça, pareil, oui. Après, c'était sur du coup arrivé il approche maintenant de la quarantaine, quoi, et il fait la rencontre de cette Mylène qui va le prendre sous son aile pour le reviriliser, en faire un vrai homme, un vrai homme de droite aussi. Et c'était, voilà, après là, c'est aussi le plaisir
de la farce.
Et ça marche pas. Et non, on sait, mais après, là, dès le départ, on sait que ça ne peut pas marcher, quoi.
Ouais.
Mais encore une fois, ce qui était amusant dans l'écriture, et c'est que lui, pourtant, se laisse faire. Et se laisse, alors qu'il n'a absolument aucune envie ni d'être virilisé, ni d'être droitisé ou conscientisé de cette manière, mais qu'il le fait quand même parce que, ben voilà, il est plus ou moins attiré par cette Mylène. Je pense qu'il en a aussi un peu peur et que du coup, il est sous son emprise, quoi.
Il est sous son emprise et chacun, d'ailleurs, c'est un peu le droit d'ingérence dans la vie d'autrui,
oui.
Parce que chacun... fais ceci, fais pas cela, et tati, et tater. On va faire une pause musicale et on reprend encore notre conversation.
Alors, un disque qui vient très récemment de sortir, Offswing Quintet Carmen Café, qui va faire d'ailleurs un concert au Bal Blomet le 2 février. Eh bien, un morceau très court, que je ne me trompe pas, et ça s'appelle Calmos, Calmos. Je trouve que ça va bien avec le livre.
Toujours sur Radio Libertaire, 89.4, émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Julien Lesquira, pour Mes Vies Parallèles, qui ça vient de paraître, bah c'est paru hier en librairie, aux éditions Le Dilettante. Julien Lesquira, bon, on a parlé de cette comédie humaine foisonnante, on sent que vous êtes amusé à créer ces personnages.
Oui, beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup.
Vous les visualisez, vous avez...
Oui, je les entends aussi, j'entends leur manière de parler. Et en tout cas, oui, j'ai beaucoup de tendresse pour tous, quand même, même ceux qui sont détestables, quoi. Mm. Et je finis quand même par avoir de la tendresse pour eux, quoi.
Mm. Même les plus insupportables.
Même, oui, même ceux avec qui je ne pourrais certainement pas être ami. Ouais. Mais quand on les écrit, oui, c'est différent, oui, j'ai beaucoup de tendresse pour eux.
Compris dans ce camp-là de
oui,
réalisation.
Voilà, c'était particulièrement à eux que je pensais. C'était des gens certainement pas fréquentables, quoi. Mais qui, quand on écrit sur des personnages comme ça, on voit d'abord leurs failles, quoi, leurs faiblesses, quoi. Et donc, on leur pardonne plus facilement, sans doute. Quoi.
Oui, parce qu'ils se sauvent, et puis il en trouve quand même un sympathique qui veut le sauver aussi, parce que il tombe dans un ravin, à un moment donné.
Oui, après, il tombe, oui. Alors, c'est pas, du coup, la personne qu'il rencontre et qui va le ramener à la ville et à la civilisation. C'est pas du coup quelqu'un du camp, c'est quelqu'un qui tombe.
Ouais. Ah oui, alors lui, il est très sympa, ouais. Là, celui qui le. Ouais. D'ailleurs, il est anarchiste.
Oui, oui, voilà, c'est ça, l'idée de passer directement à l'opposé, quoi.
Ouais, d'un bord à l'autre. Mais en fait, à chaque fois, c'est plutôt une lecture de soi-même. Il se lit lui-même, il se découvre. C'est une naissance, finalement. Vous êtes né écrivain, enfin, officiellement, puisqu'il y a eu. Avant, c'est un livre très abouti. Enfin, c'est presque pas un premier roman, Julien Lesquira.
Ben en tout cas, c'est pas un premier. Dans l'écriture, j'en avais écrit d'autres avant. Après, c'est un premier. Officiellement, c'est.
Officiellement,
c'est un premier roman.
Oui.
Et après, c'est presque difficile pour moi de.
Enfin, l'écriture est très aboutie. Ça a été dur à un moment donné de tenir le rythme.
Sur l'écriture même, non. Ce qui a été le plus dur, c'est les corrections, quoi. C'est-à-dire d'être assez. Exigeant pour ne pas lâcher là-dessus. Après, sur le premier jet, a été vraiment, vraiment facile, quoi. En tout cas, ça m'a donné cette impression de facilité. Pendant des semaines, j'ai pas eu un moment où, au milieu je me suis senti perdu ou bloqué, quoi. La difficulté est plus venue sur les corrections, quoi.
Plus sur les corrections. Vous avez surfé sur la vague, si je peux dire.
De l'indolence de Charles. Quoi.
De l'indolence de Charles. Avec ces personnages, et c'est vrai qu'à chaque fois, il naît à la fin quand même, le personnage est né. Hein, le personnage de la dernière phrase est quand même très très importante. Et oui, dernière phrase, j'étais allongée sur mon lit, personne ne viendrait m'y déranger. L'oisiveté n'avait jamais autant ressemblé à un sport de combat. Oui. En plus, il tombe sur quelqu'un parce que... Alors oui, on n'a pas parlé de ce côté-là. Il écoute beaucoup la radio.
Oui, oui, et... oui. Après, du coup, c'est ça, c'était une autre boucle qui revient et qui est liée à, donc à Europe 1, quoi. Qui est adolescent, du coup, il découvre à un moment donné que les multiplexes, les émissions sportives à la radio...
Ça, c'est un moment, oui.
Et il en fait des écoutes passionnées. Et puis, donc, plus tard, il sera... du coup, il travaillera indirectement pour cette radio. Et puis, à la toute fin, voilà, l'idée amusante de boucler la boucle avec... Il se retrouve à l'hôpital et son compagnon de chambre qui écoute en boucle des compilations de l'émission de Laurent Roquet, surtout des interventions de Pierre Bénichoux, quoi. Et qui, voilà, et qui donc lui est à côté, il subit ça, subit ses écoutes d'heures et d'heures de Pierre Bénichoux. Et d'où l'idée de faire que là, pour le coup, il est oisif et contraint à l'oisiveté, puisque bloqué sur son lit d'hôpital, mais que ça n'a jamais autant ressemblé à un sport de combat à cause notamment de son voisin. Quoi.
Ouais, il est complètement déconstruit, on peut dire. Hein. On ne va pas révéler à la fin, mais il est en miettes, on va dire. Et oui. puis il y a ça, il y a toujours cette radio, parce qu'il a adoré le foot. Hein. Son rapport au sport.
Qui est un rapport de sportif de canapé, c'est-à-dire de passivité. Que jamais lui n'aurait l'idée de faire le moindre effort sportif, sauf vraiment sous la contrainte. Il n'a pas non plus l'idée d'aller, même quand il habite Paris, d'aller au stade ou d'aller voir...
Ah non.
Parce que se mêler à la foule, ou même d'en parler autour de soi, avec ses collègues, qui l'auraient sans doute trouvé des compagnons de conversation. C'est une passion solitaire, une passion excessive aussi parfois, et puis qui passe énormément... par la radio, peut-être même plus que par la télévision, même quand il y a accès. Et parce que voilà, c'est à la fois la passivité, c'est aussi une manière d'imaginer les choses, quoi. C'est-à-dire que la radio, c'est quand même un média qui permet de fantasmer beaucoup, quoi. Et particulièrement quand on écoute des retransmissions sportives, puisque là, d'un coup, c'est le récit seul qui fait, et que tout le décor, c'est l'auditeur qui le construit. Et donc, je pensais que ça allait... Ça collait à son caractère.
Oui, ça colle bien. Et puis, on entend le grésillement de la radio.
Oui.
Ça donne un côté aussi un petit peu... un côté... Enfin, pas ancien, mais vintage. Enfin, je sais pas, il a un côté comme ça.
Oui, qui est décalé, oui. Parce qu'il écoute. Puis après, en plus, surtout qu'il... Il écoute une radio qu'on n'écoute pas adolescent, en tout cas, pas sa génération, quoi. C'est-à-dire que d'autres... donc, quand il est au collège et au lycée, enfin, surtout au lycée, ses camarades de classe écoutent certainement la radio, mais des radios musicales, des radios plus branchées. Et lui écoute une radio presque de vieux, quoi, une radio. Et il y a aussi, oui, un décalage amusant là-dedans.
Puis tout le passage, moi, j'ai beaucoup aimé sur ces sites un peu branchouilles. Parce qu'il y a un regard, je sais pas, Céline parlait de l'agité du bocal, mais il y a des agités vraiment du bocal. Il passait des heures à regarder ces choses qu'il prétendait mépriser et qu'il moquait, mais qui finissaient par constituer leur seule culture. Il y a aussi tout un regard sur la culture, l'appauvrissement de la culture, le paraître, l'être, et le paraître. Oui. Enfin, il y a tout un...
Parce que lui, alors c'est aussi une de ses rares qualités, mais c'est comme c'est quelqu'un qui n'est pas dans le paraître du tout.
Non, pas du tout.
Et qui n'est pas dans la prétention pour accéder à tel ou tel groupe. Et oui, c'est vrai qu'il repère plus facilement ce petit jeu de dupes, c'est les attitudes mimétiques, il repère beaucoup les attitudes mimétiques, c'est-à-dire les attitudes de groupe, et notamment quand il est dans ce... qui travaille pour ce site internet où il se rend compte, il voit très bien que comment les gens singent les attitudes des autres, comment la culture sert le vernis culturel sert d'appartenance à un groupe, de se rassurer, c'est-à-dire qu'ils écoutent des choses parce que les autres les écoutent, oui. Donc ça, oui, lui les voit sans doute ça plus facilement de par le fait de son retrait volontaire, quoi.
Il n'y a pas de profondeur, on voit que ce sont des personnages fictifs, eux pour le fait fictifs, parce qu'il y a le jeu entre la fiction, là la fiction elle est complète, ces êtres fictifs, alors que ce fameux gardien de nuit, là, veilleur de nuit d'hôtel, tout bizarre qu'il était, y compris son...
Oui, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a souffert aussi, et puis qui lui aussi a vécu, vit aussi à l'écart, quoi, et donc a beaucoup observé, beaucoup réfléchi. Et en tout cas, beaucoup plus que ces jeunes gens qui croissent par la suite.
Et puis, il a une véritable culture.
Oui, oui, oui. En tout cas, oui.
Une
culture classique.
Mais qui a vécu. Enfin, une
culture qui s'est faite par un cheminement plus personnel, en tout cas. Quoi.
On n'a pas parlé d'un autre personnage, je crois, c'est Giraud. Donc, c'est grâce à Michel.
Oui, qui est son collègue quand il travaille dans cette entreprise d'emballage plastique.
Ah, mais il est épouvantable, celui-là.
C'était l'idée de voir comment un personnage très, très vulgaire, très grossier et qui va faire subir à Charles toutes ces choses. Et là, c'était de montrer encore une fois la passivité de Charles, qui, pour le coup, là, il a vraiment une aversion pour cet homme.
Ah ouais.
Mais il va mettre très longtemps à se rebeller, ou même encore à essayer de se sortir de ce bureau où il est obligé de cohabiter avec cet affreux personnage.
Elle est affreux. Et d'ailleurs, lui, il est conscient, ce Charles, il fait... Dans mon cerveau endormi, la révolution marxiste n'était pas mûre. Donc, il est conscient de ce qui lui reste à accomplir,
oui,
de révolution déjà en lui-même.
Oui, c'est ça. Il voit qu'il est en souffrance, il voit qu'on abuse de lui, on l'exploite. Mais non, il n'est pas encore la force nécessaire pour se révolter.
Puis tout à l'heure, j'ai parlé de sa sœur, qui devient finalement assez sympathique.
Après, parce qu'elle est aussi, elle-même a vécu, a été un peu abîmée par la vie, et puis elle revient plusieurs fois vers lui pour tenter une réconciliation, pour créer ce lien fraternel qui n'a jamais vraiment existé entre eux. Et lui, il s'échappe toujours, quoi. C'est-à-dire que, à la fois par ennui, à la fois aussi parce que je pense qu'il lui garde une certaine forme de rancœur par rapport à ce qu'il a subi pendant son enfance. Et puis aussi parce que entretenir une relation, c'est aussi, ça demande aussi des efforts, quoi, que lui n'est pas nécessairement prêt à fournir.
Mmh. Et il y a un côté famille, je vouais quand même tout au long du roman. J'étais devenu l'oncle facho de la famille après avoir été le petit frère taré. Les années passées, je ne cessais de réinventer les dynamiques familiales. Donc, parce que finalement, son inaction, on dirait que ça fait ricocher sur lui, paf, tous les êtres il fait miroir, quoi, paf, 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 et c'est un observateur, mais qui devient acteur à son insu. C'est ça qui est le... Ça, en tous les cas, ça dynamite effectivement tout le... Comme une force centrifuge.
Oui, oui. Après, oui. C'est comme ça que je le voyais. Oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir ce personnage, ce poids mort, en fait, au milieu d'un groupe, en fait, pousse les autres à en faire plus, quoi. Comme s'il voulait compenser son manque d'énergie. Et donc, souvent, quand il se retrouve avec lui, qui est passif, taiseux, etc., il se révèle peut-être plus qu'il ne devrait. Quoi.
Ouais. Alors, voilà, j'espère qu'on a donné, en tous les cas, envie à nos auditeurs de vous lire. Moi, j'ai eu un grand, grand plaisir de lecture. Je voulais savoir, Julien Lesquira, en quoi le métier de libraire, pour vous, ça a été... vous êtes libraire, donc on voit le portrait de la libraire, là.
Oui.
Elle aussi, c'est un cas. Hein. On l'a entendu, là, vraiment,
oui.
C'est un cas. Mais en quoi ce métier, finalement, de libraire, qui est un métier de coulisses, de secret, parce que votre personnage aussi est secret, il est silencieux, ça a joué un rôle dans votre écriture. En quoi ce métier que vous avez choisi, j'imagine,
oui.
En quoi cette proximité avec les livres, avec le monde des livres, avec... Parce que le passage de la cave, là, quand même, on dirait que ce Julien Lesquira, il sort jamais de sa cave. Enfin, c'est comme une naissance, quoi. Est-ce qu'il va sortir de son arrière-boutique ?
Je pense qu'après, c'est peut-être le... Alors, il y a évidemment le rapport à la lecture, quoi.
Ouais.
Et les lectures de toutes sortes qui ont nourri l'écriture. Après, l'exercice même du métier,
les gens que vous côtoyez.
Il y a peut-être, oui, il y a le fait, voilà, il y a évidemment dans l'aspect comédie humaine, des gens avec qui j'ai pu travailler, des gens qu'on a pu croiser, des gens. Et puis, après, je ne saurais pas vraiment dire où est-ce qu'il directement a pu nourrir directement tiré de mon expérience professionnelle l'écriture, quoi, ou le personnage, quoi.
Les écrivains que vous admirez.
Oui, après, oui, dans les lectures, ça, certainement, quoi, du coup, et puis le...
Lesquelles
Après, bah, c'est sensiblement ceux qui sont cités dans le livre, ouais, quoi. Moi, ouais. Le premier, le plus spontané que je peux citer, c'est Roberto Bolaño, quoi, qui est en tout cas celui qui m'a donné envie d'écrire, quoi. C'est-à-dire que là, c'est la partie la plus biographique du livre, quoi, c'est que le lire Roberto Bolaño, ça m'a vraiment... donner l'envie de raconter des histoires à mon tour, quoi. Et après, ben, y a eu Pessoa, c'est bien sûr quelque chose que je relis. Après, moi, je suis très curieux, je peux lire toutes sortes de choses. Je suis très sensible aux personnages. Moi, j'ai besoin de m'attacher aux personnages pour pouvoir continuer sur une histoire. Et après, voilà, le fait d'être libraire, du coup, débarrasse de pas mal d'a priori, parce qu'on doit lire un peu tout.
Oui.
On doit rester curieux. On est parfois très étonné de choses qu'on pensait ne pas aimer et qu'on finit par aimer. Donc, pour moi, c'est souvent difficile de citer juste 3-4 auteurs et de... Mmh. Voilà, si ce n'est ceux que je viens de citer, quoi.
On n'a pas trop parlé du titre, un petit peu, en début d'émission, mais vie parallèle, c'est...
C'est à la fois les vies qu'il rêve, qu'il passe beaucoup de temps à rêver. C'est tout ce que chaque fois qu'il rentre chez lui le soir et qu'il refait sa journée, et ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait pu dire et qu'il n'a pas osé faire et dire. Et puis c'est tout le voilà, c'est aussi les chemins qui, s'il s'était mis à travailler dès le plus jeune âge, il aurait pu suivre le chemin de sa sœur, il aurait pu suivre le chemin que lui avait tracé son père. Et oui, et puis c'est ses vies qu'il a en permanence en lui, quoi, et qui grandissent en même temps que lui, mais qui n'existeront jamais que dans sa tête, quoi.
Mmh. Et d'ailleurs, il dit à un moment donné, mes vies parallèles courent après quelqu'un. Enfin bon, bref, oui. il est toujours suité, il n'est jamais finalement seul, puisqu'il a ses vies parallèles. Et c'est un. En tous les cas, c'est un écrivain, c'est une écriture aussi qu'on découvre. Et j'ai invité une fois, c'est quelqu'un qui s'appelle François Méronis, ça m'a fait penser à son cas, qui n'a jamais, lui, c'est un écrivain qui refuse de travailler. Il refuse vraiment d'être dans le monde du travail. Et on sent chez vous, il y a quand même cette question de l'utile et de l'inutile. C'est très précieux aussi de garder
oui, ça...
ce territoire de gratuité, où il n'y a pas du rentable. Voilà,
oui, oui,
voilà.
À la fois, oui, une part à soi par rapport à tout ce qui peut être imposé, qui peut être, nous être imposé par les nécessités de la vie, les nécessités économiques, les relations, tout ça. Et que oui, je pense que pour le personnage et que ce qu'il lui caractérise aussi, c'est de garder parfois à l'excès sa part de liberté, sa part d'autonomie et sa part de son droit aux choses inutiles, quoi.
D'être un libre penseur, comme
aussi.
On dit.
Hein.
Comment vous écrivez? Comment écrivez-vous, Julien Liesquira? Est-ce que vous avez des petits carnets? Vous êtes
d'ordi?
J'ai
des premières notes sur carnet. Après, généralement, je passe très vite au premier flux directement, ouais. sur l'ordinateur. J'ai des petits plans sur des carnets ou sur des feuilles. Mais je fais assez peu de... Voilà, le premier jet, j'ai besoin vraiment d'être... De me lancer assez vite dans la mécanique du jet de l'écriture pour avoir le sentiment d'avancer. Ouais.
L'intrigue, elle est venue petit bout par petit bout.
Elle était assez claire tout de suite. Les grandes lignes étaient assez claires tout de suite. Puis après, il y a des anecdotes et des choses qui ont surgi, qui ont surgi au moment de l'écriture.
Et votre bibliothèque, elle ressemble à quoi, votre espace d'écriture?
Alors ça dépend, parce que j'ai beaucoup déménagé. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de livres autour de moi, parce que comme j'ai beaucoup déménagé, et puis je ne suis pas forcément très très attaché aux objets libres, hormis quelques-uns. Et après, je peux écrire, à part le fait de devoir écrire dans le calme, quoi, mais je peux écrire sur une table de cuisine, sur une... J'ai pas forcément besoin d'un cadre particulier ou d'un rituel particulier.
Pas de fétiche, pas de totem.
Non, 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 ni de voilà, dessiner d'écrire tôt le matin. À part ça, tout me va, ouais.
Tôt le matin, donc oui. Après, bah oui, évidemment.
Oui.
Donc d'abord l'écriture.
D'abord
après...
l'écriture et puis après souvent la tête a été embrouillée par d'autres choses, donc c'est plus compliqué.
Les vies parallèles, le titre est venu avant ou après?
Alors le titre, pour du coup, c'est une trouvaille de l'éditeur.
Ouais.
Donc
non, mais
pour le coup,
arrive.
Il est venu.
Oui.
Bien après.
Ouais. Est-ce qu'il y a des projets en cours?
Il y a de l'écriture toujours, mais il n'y a pas de projet abouti pour l'instant. Ouais.
Bon, bah, en tous les cas, nos auditeurs peuvent vous retrouver ce soir, je pense, puisque je ne sais pas, c'est ouvert à la librairie de la main ce soir. Donc on va vous remettre le prix Transfuge de la Révélation de janvier, hein, prix Révélation du magazine Transfuge. Alors la librairie de la main, donc c'est à 19h.
Oui.
Hein, c'est au 155 rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement. Librairie de la main, c'est une librairie ancienne. Donc une présentation, il y aura, comment ça va se... Vous savez pas encore?
Je n'en sais pas beaucoup plus.
Donc on va vous présenter, j'imagine.
Oui, j'imagine, oui. Après, c'est du coup des gens que j'ai déjà rencontrés parce que ils ont eu la générosité de m'offrir une belle interview, quoi.
Oui.
Donc voilà, je pense que ça va être sans doute un petit entretien et puis quelque chose de très sympathique, mais je n'ai pas beaucoup plus de détails.
Bon, bah alors nos auditeurs peuvent ce soir vous retrouver à 19h à la librairie de la main. Merci à vous, Julien Lesquera.
Merci de votre invitation.
Votre état d'esprit du moment, comme dirait Proust, hein. ça va ?
Heureux. Oui.
Hein, c'est un bel accomplissement ces vies parallèles que j'encourage nos auditeurs à lire. Puis plus tard, on verra. Et vous savez, moi, je regarde toujours la page du même auteur. Donc, vous l'avez encore
à suivre.
Mes vies parallèles de Julien Lesquera. C'est un roman, notre roman coup de cœur à nous. Ça vient de paraître aux éditions Le Dilettante. Voilà, c'était l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, qui vous adresse ses voeux de lecture, de bonheur, d'évasion, surtout de ne pas travailler, ou du moins de faire des activités qui vous parlent, voilà, qui font peut-être non pas du sens, mais qui vous font un peu oublier la sinistrose actuelle. Je trouve qu'on s'ennuie beaucoup parfois. Et la lecture est là pour nous aider à prendre des bottes de cet lieu. Et merci à Flo Descailloux, fidèle au poste, que je remercie très très chaleureusement. Je vous dis à la fois prochaine, vous pouvez podcaster, parce que vous savez, les podcasts, ils nous suivent à la trace. Vous allez sur le site de Radio Libertaire et vous pouvez podcaster cette rencontre et conversation avec Julien Lesquera. Merci à vous et à la fois prochaine.
Vous avez encore 2 minutes. Alors, j'ai choisi un disque un peu sombre, parce que quand même c'est assez sombre. Et ça s'appelle Fleurs Noires, c'est le nom du groupe. Et Tango en Alep, c'est le titre du disque. Et le morceau, c'est Tango de Panurge. Ça vient de sortir, c'est sorti en novembre. C'est sorti à l'automne 2022. Les Fleurs Noires, Tango en Alep. C'est un groupe de filles.